Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Droits de grève, logements sociaux qui voulaient que les syndicats ont refusé, diminution des heures de travail, retraite à 60 ans. Il aurait aimé que les usines se construisent à la campagne, comme cela, lorsqu'une entreprise serait au chômage, les ouvriers pourraient travailler leurs terres et éviter les migrations vers les villes et les logements lépreux, la maladie, l'alcoolisme, etc. Et moderniser la France, avec les trains, la fabrication de locomotives, industrie moderne, rebâtit les villes en les modernisant, comme Paris, Lyon, etc. Pour ce qui était des guerres, il était contre, mais on la lui a imposée, même celle du Mexique. Lorsqu'il y a eu la guerre de sécession en Amérique, il s'est dit que pour éviter que l'Amérique devienne très forte, il faut qu'elle se divise et que le Sud prenne son indépendance. Et comme l'Amérique c'est loin, ils voulaient mieux qu'un pays près de chez eux les aide. Le Mexique devait une dette considérable à l'Europe. Le pays était dans l'anarchie la plus complète, impossible de se trouver un chef. Alors, les Européens décident de lui en donner un, qui mette de l'ordre au pays et rembourse la dette. On cherche et trouve le frère de l'empereur d'Autriche. L'empereur bien heureux de se débarrasser de son frère qui pourrait devenir encombrant, la France est d'accord, donne une aide militaire. Le jeune Maximilien va là-bas avec plein de bonnes intentions. Ils veulent moderniser le pays, l'alphabétiser, etc. Il débarque là-bas, surpris par la pauvreté du pays, des villes qui ne sont que des bourgades et des gens qui ne les accueillent pas. Il y a même des guérilleros qui se battent contre Maximilien et créent la terreur. Et ce groupe d'hommes a conclu avec les Américains une aide en échange d'une partie du territoire. Mais très vite, Maximilien s'aperçoit que le pays est ingouvernable. Une fois que les troupes avec qui il était venu sont parties, c'est le début de sa fin. Il est seul dans un pays hostile. On lui dit de retourner en Europe. Il s'obstine, et en mourra, d'abord prisonnier, puis fusillé. Sa femme, qui avait été chercher de l'aide en Europe, deviendra folle. La guerre de sécession a été perdue par le Sud. L'Amérique deviendra la plus grande puissance du monde. Durant l'Empire, les libertés sont respectées. Le carnet des ouvriers, ce fameux carnet où était marqué si l'ouvrier avait travaillé, où il avait travaillé, ce qu'il avait fait et pourquoi il avait quitté son emploi. Le carnet devait être montré pour l'embauche. Il est supprimé grâce à l'empereur. Il y a aussi les prud'hommes, la liberté syndicale, l'école supérieure normale ouverte aux femmes. Eugénie a défendu l'auteur et le livre de Madame Bovary et défend les femmes pour leur liberté. Napoléon III voulait l'école pour tous et gratuite. Malheureusement, il n'a pas pu le faire complètement car les maires des villages et des petites villes ne voulaient pas. Il disait que les enfants de paysans étaient indispensables pour les travaux de la ferme. Mais il avait bien avancé dans ce domaine et Jules Ferry n'a fait que continuer sa politique. Pour ce qui était de l'Algérie, il disait que les Algériens avaient leur propre culture et qu'ils ne pouvaient pas se fondre dans la France. C'est lui qui a fait moderniser l'Algérie et fait en sorte à ce que les Algériens soient bien traités. Malheureusement, tout ce qu'il a fait a été supprimé, transformé par la Troisième République, un imbécile a transformé l'Algérie en département français. Pour ce qui était de sa vie privée, petit bourgeois, il n'aimait pas les cérémonies ni les grands spectacles. Sa vie sentimentale, mariée dans le tard avec Eugénie, qui était sérieuse et bigote. Comme il n'avait pas eu beaucoup d'aventures galantes durant sa jeunesse, cela lui manquait, alors il s'est rattrapé, et s'est rattrapé avec d'autres femmes que sa femme, parce que sa femme ne pouvait pas lui donner certaines choses. Il a eu un fils qu'il adorait. Les guerres de 70, il ne l'a pas voulu. C'était les Allemands qui la voulaient pour renforcer leur union. Napoléon ne la voulait pas parce qu'il n'aimait pas la guerre. Et puis, la France n'était pas prête. L'armée avait besoin d'être modernisée et le Parlement avait refusé obstinément les augmentations de son budget. Les Prussiens choisissent n'importe quel prétexte pour se battre contre la France. La dispute a commencé pour une histoire de prétendant au trône d'Espagne, un roi à choisir. Les États d'Europe devaient en choisir un. La France avait le sien. Les Russes et les Prussiens avaient décidé de mettre sur le trône d'Espagne le leur sans en parler à la France. La France, outragée, demande explication. On envoie le Premier ministre parlementer. La presse, ou plutôt les journalistes, la prennent et disent que la France a été outrageusement humiliée et qu'il faut exiger des excuses. On demande la guerre. De toutes parts, l'on crie à Berlin. L'empereur n'ose pas et ne veut pas. Mais le peuple, il croit que c'est le peuple en entier qui la veut. Il n'ose pas en discute longuement avec sa femme et son ministre. On lui dit que puisque le peuple le veut, il le faut, car le peuple se sent humilié. Donc, la mort dans l'homme, il fera la guerre. Sous les applaudissements des condes parisiens, des politiques et des journalistes, il part avec son fils de 14 ans. La régence est donnée à sa femme pour la première fois. La guerre devient très vite une véritable boucherie. L'empereur malade, très malade, donne des ordres, demande à Paris de l'aide et donne des ordres à sa femme. Sa femme, qui a le pouvoir, en profite pour se venger, car elle était jalouse. Et n'oublie plus aux ordres de son mari et le destitue des chefs des armées en envoyant un autre le remplacer. L'empereur, sans pouvoir, au milieu des ruines, avec son fils auprès de lui, qui l'aide à descendre de cheval. Il est seul, abandonné, malade, avec un fils de 14 ans qu'il aime. Ils sont tous deux abandonnés au milieu des blessés, morts, le sang, les cris, les canons, la fumée, les chevaux qui vont dans tous les sens, au milieu de cette guerre qui n'a pas voulu, souffrant, ne servant à rien, car personne ne s'occupe de lui ou n'exécute ses ordres. Il décide de se rendre aux Allemands et d'abdiquer. Les Allemands acceptent l'armistice, mais demandent à l'empereur de rester empereur des Français. Les Allemands sont les seuls à demander à Napoléon III de rester empereur. Ils veulent traiter avec lui et le préfèrent à quiconque à la tête du pays. Napoléon sait que les Français ne le veulent plus. Il abdique. Part pour l'Angleterre, où il retrouve sa femme et son fils. Les Anglais et la reine les aident. Dans son exil, il continue à écrire et faire des projets, ou plutôt des idées, parce que pour lui, la politique, c'est fini. Il imagine une retraite pour les ouvriers à 60 ans, etc. En Angleterre, la vie est paisible. Puis, son mal empire. On l'opère trop tard. Il meurt d'un gros calcul dans la vessie, mal soigné. Dès l'annonce de sa mort, des communards viennent chanter la Marseillaise devant sa demeure. On le regrette. Pasteur, même Victor Hugo. Voilà, le scénario est fini. Petit film qui va se faire avec un petit budget. Sa maison de production suffira. Un acteur, plan fixe, assis dans au coin du feu, qui parle. Et pour sa mort, voix off à la fin. Acteur habillé en Napoléon en civil, blanchi, vieilli, un côté vieux dieu en disgrâce, noble sous sa fin. Le film dure une heure, le public l'a bien reçu. Un Oscar pour l'acteur. Nicolas revient d'une soirée. Il est 4 heures. En arrivant sur son palier, il voit s'ouvrir d'un coup la porte du placard technique. Et un jeune homme blond habillé de noir. Il est penché sur une canette de bière avec une seringue. Il a les mains toutes blanches, ses vêtements et le sol aussi. Le jeune dit : Il est quelle heure ? 4 heures, je prends un médicament. Nicolas lui dit, faites vite parce que l'on risque de vous voir. Oui, je sais, je me suis déjà fait prendre une fois. La police est venue. C'est pas drôle de se faire prendre lorsqu'on prend un médicament. Faites vite. Ça vient. Il faut que le produit devienne vert. J'y arrive pas. Il semble pas savoir préparer sa piqûre. Le produit ressemble à du plâtre. Il y en a de partout, même sur le bout du nez. Il y a aussi plein de bouts de coton à terre. Que là, le regarde bien, il a l'air plutôt paumé qu'autre chose. Zut, et mon aiguille ? Il cherche à terre, la trouve, elle est pleine de poussière. Que là, lui dit, il va falloir la laver. Il prend une bouteille d'eau et renverse de l'eau sur l'aiguille. Que là, se dit, il ferait mieux d'apprendre à se préparer son truc. Quelle hygiène ! Il dit tout haut, en fâchant que son truc, le jeune lui dit, « Ah, toi aussi ?»« Non, pas vraiment. Mais mon truc à moi, c'est pas la même chose que le tien. Il voit que le jeune trafique avec sa seringue. Il a peur. Il l'a posée sur une canette de bière que là lui demande. Vous n'y arrivez pas? Le jeune répond. C'est pas facile, que là lui dit. Quel truc? Enfin, chacun son truc. Le jeune lui dit. Toi aussi? Pas vraiment. Moi, mon truc, c'est pas la même chose que toi. Au lieu de faire ça, pour te sentir mieux, tu ferais mieux c'est de te masturber. C'est plus facile, ça coûte rien, c'est pas dangereux ni interdit. Mais on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, sans chercher quoi que ce soit. Je le regarde surpris et lui dis, tu crois? Oui? Ça apporte autant de plaisir, tu sais? Essaye. Que je n'hésite, Nicolas lui dit. Si tu veux, je peux t'aider. Je te branle si tu veux. Le jeune hésite, se relève, ouvre sa braguette et sort son phallus, tout mou, mais avec une belle forme, pas trop longue et fine. Colin s'approche, lui touche avec son doigt, tout doucement, le long du phallus et lui dit, il est beau, hein? Le jeune hausse ses épaules, que là, petit à petit, lui touche plus fortement, lui caresse le gland, la verge se raidit et prend petit à petit la position 69. Nicolas lui sourit. Le jeune ne dit rien. Nicolas fait le geste de le masturber. Le jeune ferme les yeux. Nicolas lui défait son pantalon, lui descend, met la main dans le slip tout en le masturbant. Le jeune ne bouge pas, il sent bien. Nicolas lui touche le bas-ventre, il sent quelques poils doux, il prend à la main les coudes qui sont fermes. Elles sont lisses, sans poils et de belle forme, pas trop grosses. Le jeune frémit un peu et serre les jambes. Nicolas va des couilles aux fesses en continuant à le masturber. Cela lui demande, si tu avais un préservatif, je t'aurais sucé en te caressant les fesses et les couilles. Tout en même temps, je lui demande, suce-moi. Non, je ne peux pas. Pourquoi? À cause des maladies. Mais je n'ai rien. Tu ne peux pas le savoir. Si. J'ai passé à la visite. Je ne veux rien dire. Tu peux la voir après. Il serre de plus en plus le sexe du jeune entre ses mains. Je lui dis, c'est bon. Tu me diras quand ça viendra. Oui, vas-y, c'est bon. Nicolas continue et voit le jeune de plus en plus excité. Vas-y, non. Il plie les jambes. Ça vient, attends, attends. Nicolas se retire un peu. Le jeune jouit en faisant tomber le sperme à terre. Pendant que le jeune tremble comme une feuille. Une fois que c'est fini, il est essoufflé et rouge. Il dit, j'ai froid. Nicolas lui dit, c'est rien, c'est normal. Il souffle un peu. Nicolas continue à le caresser. Le jeune plaqué contre lui. Le sexe est ramolli. Le jeune souffle et se détache de Nicolas. Et se rhabille. Une fois que c'est fait, Nicolas lui demande. Comment tu te sens?
Ça va.
Tu veux te piquer?
Non. Pas pour le moment. Merci.
Et il s'en va, en laissant à terre tout son foutoir.
Et Nicolas entre ses lits.
Guillaume est absent. Il est chez une de ses tantes, Nicolas a un peu honte d'avoir trompé Guillaume, mais il n'y peut rien. C'est purement physique, pas de sentiment, un besoin irrésistible, mais rien de plus, rien de profond. C'est Guillaume qui l'aime. Les autres, ce n'est rien. Juste passer un moment, ensemble, agréable, comme ça. Comme avec un ami, en buvant un verre ensemble, ou fumant une cigarette, comme ça. Les jours passent. Nicolas cherche toujours un projet de film pour Guillaume. Guillaume est toujours chez sa tante.
Un soir, on sonne à la porte. Nicolas va ouvrir. C'est le jeune de la dernière fois.
Salut, salut. Nicolas lui demande, que veux-tu? Tu peux pas me dépanner comme l'autre soir? Tu peux pas faire ça tout seul? Non, j'aime mieux lorsque c'est toi. Je ne peux pas. Tu peux pas me laisser comme ça? Tu peux pas, non? Nicolas lui dit, j'ai ma vie, j'ai quelqu'un, trouve-toi une autre personne. J'ai personne, et puis tu fais bien. Nicolas hausse ses épaules, le jeune lui dit, tu peux pas me laisser comme ça? Il voit son sexe en érection. C'est tellement fort que ça me fait mal. Et puis c'est de ta faute, c'est toi qui m'as fait goûter et maintenant il m'en faut. Autrement je serais obligé de me piquer. Nicolas soupire et lui dit, allez, entre.
Le jeune entre. Viens. Et Nicolas le met dans sa chambre. Tiens. Entre. C'est bien chez toi. C'est grand et tout. Une fois dans la chambre, ils restent tous les deux au milieu de la pièce.
Nicolas sourit, l'embrasse sur la joue et commence à le déshabiller.
Le jeune lui dit, j'ai pris des préservatifs.
Et en sortant de sa poche de pantalon, Nicolas lui dit, c'est bien, faudra te laver aussi.
Une fois nu, Nicolas l'a mené à la salle de bain.
2 ans plus tard, le jeune est parti. Nicolas lui a dit de ne plus revenir parce que son ami allait être là. Le jeune n'a rien dit. Guillaume est revenu. Le jeune n'a plus sonné chez Nicolas. De temps en temps, Nicolas le voit dans la rue. Ils font un petit sourire. Le jeune lui dit, c'était bien. Nicolas lui dit, oui, tu te drogues? Le jeune lui dit, un peu, je me masturbe. Et puis, des fois, si je trouve une personne qui veut bien m'aider, Nicolas lui dit, arrête de te droguer. J'arrive presque grâce à toi. Tu manques, tu sais. Et toi, Nicolas lui dit, moi aussi, mais chut. Ton ami est de retour? Oui, et je l'aime. Je ne veux pas le faire souffrir. Toi aussi, tu trouveras. Peut-être une jeune fille, le jeune lui demande. C'est mieux? Nicolas lui dit, on vit mieux avec les autres si c'est une fille. Le jeune lui dit, je comprends. Alors, plus jamais nous deux. Je crois que c'est plus jamais, mais ça nous fait un bon souvenir. Le jeune lui dit, oui, il n'y a que toi qui fais aussi bien. La souris lui dit, c'est le coup de main. Le jeune lui dit, et le coup de bouche.
Allez, il faut qu'on arrête.
Tu me fais bander, Sally. Et il quitte Nicolas. Souvent, ils se voient, se font un petit signe. Mais lorsque Nicolas est avec quelqu'un, il fait celui qui ne le reconnaît pas. Les jours passent.
Un jour, Nicolas reçoit une lettre. Qui lui dit qu'il doit se laisser guider par ses instincts être naturels. Que la loi, la société, la religion ou autres ne doivent pas faire obstacle à ses besoins, désirs. Qu'il fait partie des élus, qu'il doit aller au-delà du bien, du mal. Que pour lui, le bien, le mal ne doit rien dire. Que c'est une invention humaine, stupide, qui empêche l'homme d'être lui-même, c'est-à-dire naturel. L'empêche d'être comme on l'a créé. Il a été muselé par la société, il doit redevenir ce qu'il doit être et vivre ses désirs sans les entraver. Nous pouvons vous aider à assumer vos désirs, à les extérioriser. Nous sommes les écologistes de l'être humain pour qu'il reste en harmonie naturelle, sans la pollution morale, sociale, religieuse ou politique. Nous avons des lieux où tout est permis. Nous pouvons vous apporter, vous offrir tout ce que vous désirez. Il vous suffit d'écouter votre nature sans restriction et dire ce qu'elle a envie ou besoin. N'ayez pas peur, tout est permis. Nous ne choquons de rien, nous sommes comme vous. Dites-nous tout ce que vous aimez et nous vous aiderons à être vous-même. Nous sommes nombreux, des gens de toutes sortes et devenons quasiment intouchables. Car nous avons des gens très influents chez nous. Vous êtes un de nos élus. À votre naissance, vous avez été offert. Comme prévu, nous venons vous chercher. Votre rôle premier nous est primordial. Vous êtes l'élu de celui que l'on doit donner et qui appartenait à SLM. On vous veut parmi nous. Venez. Où l'on peut vous mènera à nous. Vous êtes déjà allés à nous, les 12 SLN. Nicolas, après avoir lu la lettre, pense que c'est une plaisanterie. Il a fait lire à Guillaume qui lui dit
« Peut-être pas, il y a des tas de détraqués et la femme en noir, les 12 SLN. C'est peut-être les 12 soleils, l'orchidée noire. Tu devrais aller à la police avec la lettre. » Nicolas lui dit, si j'y vais, ils vont faire une enquête sur le mou. Nous qui sommes homo, comme en ce moment, être homo, ce n'est pas bien vu, avec toutes ces histoires de pédophilie, les gens ne voient pas la différence avec nous. Ils ont compté les maladies sexuelles. Cette lettre risque de plus nous nuire qu'autre chose. Mais tu as raison. C'est peut-être la femme en noir qui doit faire partie d'un groupe de gens à moitié cinglés. Guillaume lui dit, et dangereux, lis bien. Pour eux, il n'y a pas de morale, tout est permis, même le crime. Que là lui dit, tu vas un petit peu loin. Pense à tout ce qu'a fait la dame en noir. Elle a bien plus d'une fois failli nous tuer. Ou un membre de ta famille, comme ce pauvre Denis. Que là lui dit, oui, tu as raison. Mais était vraiment là-dedans? Guillaume ouvre ses épaules et lui répond.
On ne sait jamais, alors fais attention.
Tu as raison.
Un soir, Nicolas, en se dirigeant chez lui, en passant devant une porte d'allée, il se sent pris par la manche, se retourne et voit un clochard, maigre, mal rasé, cheveux noirs, chapeau et manteau gris sale. Le clochard lui demande :
C'est toi, Nicolas ?
Oui.
Tu es l'élu, je t'ai reconnu. On a besoin de toi. Lui t'appelle. Il faut que tu viennes le plus vite possible.
Mais je ne comprends pas.
Mais si, je sais que tu as reçu la lettre. Il faut que tu y ailles.
Mais où ?
Au centre.
Quel centre ? Pourquoi faire ?
Le centre. Tu feras ce qu'on te dira.
Vous êtes de la dame en noir ?
L'homme ne répond pas et sort un cran d'arrêt.
Nicolas fait un geste brusque pour se dégager. L'homme le laisse partir. Nicolas se sauve en courant. L'homme lui crie :
Tu as une dette envers nous. On se reverra.
Nicolas, une fois chez lui, se ferme à clé.
Il se dit que cette histoire a l'air sérieuse, mais il ne peut compter que sur lui. En préparant le dîner, il se demande ce que c'est que cette histoire. Il est l'élu dès sa naissance. Pourquoi a-t-on besoin de lui ? Est-ce pour un sacrifice ? Est-ce sa dame en noir qui est là-dessus ? Est-ce pour lui faire peur ? Mais pourquoi veut-on lui faire peur ? Et qu'est-ce que ses parents savent quelque chose ? Que s'est-il passé au moment de sa naissance ? Qui était présent ? La dame en noir ? Et surtout, les noms sur le carnet ? Ont-il des rapports sous ces noms ? Voilà des questions différentes, des questions difficiles à répondre.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 43e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Thank you.